Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5. Et puis nous lirons aussi dans 1 Corinthiens 2. Alors il est écrit ceci à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc il s'agissait d'une guérison. Jésus-Christ avait accompli une guérison le jour de sabbat et ça compliquait les autorités religieuses juives. Et Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, on va s'arrêter là. Toujours, avant de lire 1 Corinthiens 2, nous lisons Jean 16, 13. Il est écrit ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel Au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors, nous revenons au chapitre 5 de Jean, où le Seigneur Jésus dit, « Je ne fais rien par moi-même. Le Fils ne fait rien par lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. » Donc, au verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Une des difficultés de la vie chrétienne, c'est de vouloir faire pas comme nous voyons le Père faire. Jésus-Christ était à l'aise aussi dans sa vie sur terre, malgré les difficultés, les tempêtes, les oppositions qu'il pouvait rencontrer. Jésus-Christ observait son Père et imitait son Père. Un des problèmes que nous avons, c'est les échecs. Et ces échecs sont dus au fait que Dieu ne nous accompagne pas dans certaines actions. Parce que Dieu, il n'est le serviteur, donc dans le sens où il n'obéit aux ordres des personnes. C'est son plan que lui, il veut accomplir. Maintenant, quand on est dans les plans de Dieu, même s'il y a des oppositions, il y a des difficultés, on réalise son accompagnement. C'est comme si les choses coulaient. Et ça nous permet d'affronter d'autant plus les difficultés que nous sentons que nous sommes dans la voie de Dieu. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des complications, mais les promesses du Seigneur sont, la vision de Dieu sera toujours devant nous et nous serons à l'aise malgré l'opposition. Parce que nous réaliserons, comme David le dit dans le psaume 23, et même dans la vallée de l'ombre et de la mort, ta houlette et ton bâton sont ma sécurité. Donc, malgré les oppositions, malgré les difficultés, réaliser que Dieu est avec toi, marcher avec lui, c'est une grande consolation et une grande force. Souvenons-nous même que le Seigneur avait dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Donc, Dieu est conscient que même pour le chrétien, la vie sur terre est difficile et il lui faut la présence de Dieu. Il lui faut le consolateur. Et c'est ce qu'est le Saint-Esprit pour nous. Et moi, je veux insister sur le fait que nous devions penser comme Dieu et imiter Dieu. C'est comme ça que dans chacun des domaines de nos vies, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons le soutien de Dieu. Et même si, de l'autre côté, il y aura une masse d'opposition, une masse de difficultés, le fait que Dieu soit avec nous, le fait qu'il nous le montre clairement, le fait qu'il nous appuie, sera une grande consolation et une grande force. Nous pourrons vraiment aller jusqu'au bout. Nous avons besoin de voir Dieu, de voir les choses comme Dieu voit. C'est important. Parce que quand nous voyons comme il voit, on fait des limitations. Il n'y a rien de plus simple que limitation. Ce qui est compliqué, c'est les inventions. Commencez à imaginer des choses. Mais ce qui est simple, c'est que tu vois Dieu faire et tu imites. Et tu es bien. Et lui met le cachet de son approbation. Et toi, tu es à l'aise. Tu te sens porté. Tu sens les choses faciles parce que tu ne fais que voir ce que fait le Père et toi, tu imites. Nous avons besoin à chaque situation de penser à cela. Sinon, par ailleurs, nous passerons aussi à côté de notre mission. Parce que pour faire notre mission, nous devons la connaître. Comment la connaître? C'est que nous ne faisons pas notre mission tout seul. Dieu fait d'abord, nous nous voyons et nous imitons. Donc, le Seigneur était toujours dans deux phases. Une phase où il saisissait la volonté de Dieu et une deuxième phase où il l'accomplissait. C'était pour lui comme facile. Il voit Dieu faire, il voit les intentions de son Père, il fait cela. Et c'était sa mission en même temps. Donc le deuxième problème que peut nous susciter le fait de faire par nous-mêmes, c'est que nous risquons aussi de sortir de notre mission, de sortir de notre appel et faire autre chose, et se distraire pour rien, et souffrir, et parfois connaître des déboires qui nous amènent justement à perdre la foi. Nous avons besoin de voir comme Dieu voit. d'imiter Dieu, de penser à lui, de penser comme lui voit. Et vous savez, cette prédication est venue du fait que je me disais, mais tiens, c'est une réalité. Quand je prie pour certaines personnes, pour le salut, je ne prie pas de la même manière que lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, fais que les gens à Rouen se convertissent. Fais que notre quartier, dans notre quartier, les gens se convertissent. Ce n'est pas la même force parfois quand on prie pour d'autres personnes. Je me disais, mais c'est pourtant pas normal. Parce qu'aux yeux de Dieu, tous les humains sont pareils. Pourquoi nous, quand nous prions, on sent dans notre cœur des différences d'intensité lorsqu'il s'agit peut-être d'un voisin méchant d'un voisin bon? Quand on prie pour le voisin bon, nous sommes déterminés, nous crions. Mais quand nous prions pour le voisin méchant, c'est comme si nous le faisions juste parce que il est dit que tous les chrétiens doivent prier, on doit prier pour tout le monde, donc on prie. Et je réfléchissais à ça, je disais, mais c'est pas normal. Donc le problème, c'est que nous prions en fonction de ce que nous ressentons, au lieu de prier en fonction de ce que Dieu ressent. Nous devrions voir les choses comme Dieu voit. Pour Dieu, que ce soit celui qui habite le Bangladesh, celui qui habite l'Afghanistan, que ce soit le musulman, le catholique, le bouddhiste, des gens qui sont dans l'erreur, ces gens-là, Dieu les aime et il veut les sauver. Et nous ne prions pas de la même manière. Nous prions pour certaines personnes avec ferveur, pour d'autres juste par, par tradition, par coutume, par routine, nous prions. Et ce n'est pas bon. C'est là que j'ai eu à cœur de partager ce problème-là, de penser comme Dieu pense, de voir les choses comme Dieu voit. Dieu, pour lui, chaque humain est important, ne serait-ce que pour ça, pour le salut. C'est vrai qu'après, dans des relations, je dirais, amicales, Dieu n'a pas les mêmes relations avec tout le monde. Parce que Dieu s'approche de celui qui s'approche de lui. Mais l'amour pour le salut, l'amour pour les humains est identique. Les relations ne sont pas identiques, mais l'amour est identique. Et si nous devons vraiment nous mettre à la place de Dieu, nous prierons pour le salut de tout homme d'une manière identique. Parce que Dieu n'a pas de cousin sur terre. Il n'a pas de famille élargie. Non, tous les humains sont ses créatures. Et du moment que tous les humains sont ses créatures, et il est écrit même dans Jacques que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu aime tous les humains de la même manière. Il n'a pas les mêmes relations, comme j'ai dit, mais l'amour est le même. Et du moment que l'amour est le même, toi qui intercèdes, toi qui prie, tu devais prier, je devrais prier de la même manière pour un voisin méchant que pour un voisin bon. Je devais voir comment Dieu, lui, les considère. Dieu les considère tous comme des humains créés par lui. Nous devons, c'est pourquoi je vais citer des exemples, hein, de façon de voir où l'homme se trompe. C'est pour nous ramener à passer notre temps à méditer souvent sur les pensées de Dieu pour tel problème, pour telle situation. Nous avons besoin de connaître sa pensée. Et Paul nous rassure. Il dit, personne ne connaît la pensée de Dieu. Mais nous connaissons parce que nous avons l'esprit de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, à la fin, il dit, nous avons la pensée de Christ. Parce que nous sommes spirituels. Dieu nous a donné son esprit. Et l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit connaît les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi l'esprit nous communique les pensées de Dieu. Donc, nous avons accès à la pensée de Dieu. Nous avons accès aux méditations de Dieu lui-même. Dieu nous les donne. Et nous avons un moyen très efficace de connaître la pensée de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Souvent, nous faisons les choses par rapport à ce que nous ressentons. Dieu peut nous parler par notre cœur, par notre esprit, mais nous avons besoin de lier toujours cela à sa parole. Parce qu'il y a des choses que nous ferons parce que nous avons, nous aussi, un cœur qui réagit. Et en fonction des sensations de notre cœur, nous pouvons prier pour un voisin, pour un cousin, pour une cousine. Mais cependant, nous ne devons pas suivre que les élans de cœur. Ces élans de cœur doivent être complétés par la révélation de la pensée de Dieu. Et si on n'a pas entendu une voix qui nous parle, la voix de Dieu, nous avons la Bible qui nous donne la pensée de Dieu. Nous devons méditer la Bible et réfléchir à que serait la pensée de Dieu pour tel ou tel autre domaine. Et c'est vrai qu'il y a des domaines dont la Bible ne parle pas exactement. Est-ce que tu dois aller en Chine ou dois aller au Japon? La Bible ne parle pas de cela. L'Esprit de Dieu va te parler de cela. Mais il te faut méditer, il te faut prier, dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta pensée. » C'est très important de connaître la pensée de Dieu. Parce que quand tu connais la pensée de Dieu, tu feras comme le Seigneur Jésus. « Je connais la pensée de Dieu. » Je me mets en marche pour l'appliquer et ça marchera. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Pourquoi nous rencontrons beaucoup d'échecs? Parce que nous ne vivons pas selon la pensée de Dieu. Nous avons l'esprit, mais nous ne marchons pas selon l'esprit. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit, à marcher selon la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, elle est dans la Bible. Cette pensée de Dieu, elle est en nous, nous aussi. Mais nous avons besoin de la laisser s'exprimer parce que le problème, c'est que c'est nous qui préférons imaginer, inventer des choses, calculer, et ça nous amène à sortir de la pensée de Dieu qui est naturellement mise en nous. Paul, quand il dit que nous avons l'esprit de Christ, il ne dit pas que nous devons chercher ça, il dit nous avons la pensée de Christ. Nous l'avons, mais nous ne voulons pas la laisser s'exprimer. Parce que nous voulons que la nôtre s'exprime. Le problème n'est pas de la chercher tant, mais le problème est vraiment plutôt de la laisser s'exprimer. Quand est-ce qu'on en arrive à la chercher? Ben, lorsque on hésite, lorsqu'on doute, lorsqu'on ne sait pas trop. Et là, on prie, Seigneur, je veux connaître ta pensée pour telle autre chose. Et c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que nous ne serons pas déçus. Quand nous marchons selon la pensée du Seigneur, nous ne sommes pas déçus. Même quand les choses échouent, le Seigneur finit par nous éclairer. Et quand j'ai dit la pensée du Seigneur, le Seigneur ne va pas toujours tout nous donner, tout nous expliquer, mais il nous donnera ce qu'il faut pour le moment qu'il faut. Et nous agirons. Et peut-être 2 ans, ou 2 mois, 3 mois, 6 jours, 3 jours après, il nous expliquera tout. Mais il nous donnera la pensée qu'il faut pour le moment qu'il faut. De sorte que, comme des imitateurs, nous marchons vraiment tranquillement. Tu sais que, ben, Seigneur, tel acte, j'ai été imité. Parce que j'avais reçu ton message, j'ai imité. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu te dis, mais si j'imite Dieu, donc ça ne peut que marcher. Les choses ne peuvent qu'avancer. Et tu es d'autant plus tranquille. Parce que tu sais que tu as imité Dieu. Tu as accompli la pensée du Seigneur. Nous avons besoin d'évaluer toute situation selon Dieu. Comment tu reçois les événements qui arrivent dans ta vie? Est-ce que tu les as mis devant Dieu pour méditer avec Dieu sur ces événements? Pour comprendre quelle est la pensée de Dieu sur ces événements? La manière dont nous recevons les événements, nous devons recevoir cela selon la pensée de Dieu. Et nous verrons beaucoup de choses changer dans nos vies. Nous verrons que Dieu, à chaque fois, nous donnera des explications qui nous fortifieront et on va vraiment servir Dieu, je dirais, tranquillement. Et quand je dis tranquillement, je reconnais qu'il y a toutes sortes d'obstacles, mais la différence, c'est que l'accompagnement de Dieu va nous rendre ce combat-là un combat heureux. Paul, à la fin de sa vie, disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Parce que tant que j'avais la foi, le Seigneur m'éclairait, je le suivais. Donc j'ai donné un exemple de la manière dont nous recevons les choses. L'amour, il y a des gens pour qui nous prions plus fortement que les autres parce qu'il y a nos intérêts dedans. Ce n'est pas l'amour pur, ce n'est pas l'amour spirituel. C'est l'amour humain que nous utilisons pour prier. Le Seigneur veut que nous ayons l'amour spirituel, l'amour désintéressé, l'amour qui voit comme Dieu voit. C'est très, très important. Imaginez que Dieu ait fait de Paul son apôtre. lui qui persécutait les chrétiens. Donc lui, il a un amour sans condition, inconditionnel. Imaginez comment Dieu nous a pardonné, nous, alors que nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. Donc nous devons avoir cet amour sans favoritisme. Et même, ça c'est le deuxième point, dans nos relations avec Dieu, beaucoup d'entre nous se comportent comme si c'était une alliance entre les parfaits. Dieu est parfait, il dit dans sa parole, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est vrai, mais notre relation, ça c'est l'éducation de notre Père. Mais éducation et amour, ce n'est pas égal. L'éducation n'est pas égale à l'amour. On aime d'abord et on éduque ensuite. Mais ce n'est pas parce qu'on éduque que notre relation est basée sur l'éducation. Notre relation est basée sur l'amour. Dieu t'aime parce qu'il t'a aimé. C'est inexplicable. Mais nous aurons toujours un réflexe de vouloir conditionner l'amour de Dieu à notre comportement de perfection. Bien-aimé, je ne suis pas en train d'encourager les mauvais comportements. Je suis en train de dire clairement que l'amour, ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas égal à l'éducation. Donc, il ne faut pas, parce que Dieu nous éduque, que nous considérions que c'est notre bonne éducation qui fera la solidité de l'amour de Dieu pour nous. Non. Quand on aime bien aimer, je vois des gens qui font même, on a vu à la télé, des concours des chiens les plus vilains. Mais les propriétaires ne veulent pas s'en séparer. Il va dans le concours parce que son chien est vilain. Donc il va dans le concours avec ça. Bien aimé, il y en a vraiment qui sont comme des monstres. Alors on se dit, mais comment un homme peut aimer un tel chien? Mais lui, il aime. L'amour est inexplicable. C'est le choix que quelqu'un a fait d'aimer. Et maintenant, là, qu'est-ce que l'amour attend? L'amour attend juste un retour d'amour. Là où ça ne marche pas, c'est quand il n'y a pas ce retour-là. Mais quand il y a ce retour, après, la relation est bonne. Vous allez voir, le chien, il est vilain, il est malade. Le propriétaire, il est peut-être beau et riche. Mais du moment que le chien a accepté qu'un propriétaire beau et riche l'aime, le propriétaire, lui, il a accepté d'aimer un chien de cette carrure-là, ben, leur relation est bonne. Ils marchent ensemble, le propriétaire s'occupe du chien, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose d'inexplicable. Mais c'est un choix qu'on doit assumer. Ça n'a rien à voir avec l'éducation et la beauté, et ainsi de suite. Quoique, si on aime vraiment, on fera du bien à l'autre. Mais nous devons comprendre la base de l'amour. C'est important. Parce que beaucoup d'entre nous sont freinés dans leur marche avec le Seigneur. Parce qu'ils se disent, je ne crois plus que Dieu m'aime. Après, avec tout ce que j'ai fait, je ne crois plus que vraiment il m'aime. Je ne suis pas, je le dis bien, en train d'encourager le mal. Je dis tout simplement, l'amour, ça ne dépend pas des œuvres. Dieu nous a aimés parce qu'il nous a aimés. C'est inexplicable. C'est son cœur qui est amour et il aime. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est qu'on accepte cet amour. Parce que si on accepte cet amour, automatiquement, bien-aimé, je vous dis la vérité, quand tu acceptes l'amour de Dieu, tu vas l'aimer aussi. C'est automatique. Pourquoi parfois on a du mal à aimer Dieu? Parce qu'on n'a pas accepté son amour non plus. C'est normal. On est dans une relation de parfait. J'appelle ça l'alliance des parfaits. C'est-à-dire, j'aime Dieu, il m'a sauvé, il a été bon envers moi. Et maintenant, 5 ans après, ton fils meurt. Ton parent meurt. Ou bien ta jambe se casse. Comme c'est une alliance des parfaits, Dieu n'est plus trop efficace, mon amour pour lui diminue. C'est ce qui se passe. Et on pense que Dieu aussi travaille de cette manière-là. C'est faux. C'est une fausse vision. L'amour de Dieu, c'est lui-même, parce qu'il est écrit dans 1 Jean 4:8, Dieu est amour. il aime. Le meilleur moyen de vivre dans cette relation-là, c'est accepter. C'est tout. Je vous dis que ce n'est pas facile. Parce que nous sommes dotés d'un raisonnement charnel qui nous pousse à faire l'alliance des parfaits et non pas vivre une relation d'amour. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment ça se passe dans beaucoup de mariages. Donc, c'est chacun le régime à fond. Donc, il faut être le plus fort dans tous les domaines, cuisine, habillement, propreté. Donc, c'est la course à qui va satisfaire l'autre le mieux. C'est une, moi, j'appelle ça une alliance des parfaits. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, 1 Corinthiens 13 nous l'explique clairement. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. L'amour, moi, c'est moi qui rajoute, l'amour est inexplicable. C'est un état qu'on a trouvé chez Dieu. L'amour, on l'a trouvé chez Dieu et on ne peut pas comprendre cela avec l'intelligence humaine. C'est quelque chose de divin. Le seul choix que Dieu nous demande de faire, c'est d'accepter tout simplement. Et quand tu acceptes, forcément tu seras transformé. Forcément, toi aussi, tu l'aimeras. L'amour, il devient la vraie relation. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette relation avec Dieu. Ils ont une alliance de parfaits. Dieu est parfait. Moi aussi, il m'aimera tant que je suis parfait. De l'autre côté, quand Dieu aussi ne semble pas nous satisfaire, nous aussi, on commence à changer de vision, à changer de façon d'être. Il faut qu'on nous pousse pour prier, il faut qu'on nous pousse pour faire ceci, parce que on est déçu en quelque sorte de Dieu. C'est ça, c'est malheureux. Après, il n'y a pas le vrai amour. Vous savez, les disciples ont continué à suivre Jésus, ce n'est pas parce qu'ils avaient tout compris, hein. Loin de là, parce qu'ils l'aimaient. C'était devenu une relation d'amour. C'était plus une question de maître et de disciple. D'ailleurs, Jésus leur a dit, maintenant vous êtes mes amis. Maintenant vous êtes mes amis. Bien aimé, cherchez, je ne sais pas, bon, la plupart d'entre nous n'avons pas lu beaucoup d'écrits juifs. Mais je ne pense pas qu'il y avait des élèves qui se couchaient sur la poitrine de leur maître rabbin. Je ne crois pas. Mais Jean, lui, le faisait sur la poitrine de Jésus. Donc, Jésus avait une relation d'amour maintenant avec les disciples. Quand il y a eu ces conflits-là où il fallait arrêter Jésus, où il fallait, à un moment Jésus a dit qu'il fallait le manger, il y a eu des épisodes difficiles. Ces gens-là se sont accrochés au Seigneur. Pas parce qu'ils avaient compris, pas parce qu'ils étaient dans une alliance des parfaits. L'alliance des parfaits, c'est quoi? Il faut que je comprenne mon intérêt, il faut que je comprenne tout, il faut que voilà, tout soit clair. Ça, c'est l'alliance des parfaits. Il faut que la Bible, il n'y ait aucune faute de français, il faut que tout soit coordonné, il faut que ça soit comme des mathématiques. Voilà, ça, c'est l'alliance des parfaits. Il faut que Dieu soit parfait pour que je l'accepte davantage. Et en même temps, quand soi-même, on n'est pas parfait, on ne se sent pas bien parce qu'on se dit, Dieu ne m'aime plus. Et on est dans une fausse vision et on a une vie chrétienne difficile. Mais quand on est dans la relation d'amour, on sait que Dieu est mon Père. Même quand j'ai fait des bêtises, il va me rattraper. Il va me pardonner puisque je vais lui demander pardon. Moi, ce que je veux, c'est servir mon papa. Je veux être comme lui. Je l'aime. Je ne veux pas le lâcher. Vous savez, nous connaissons un des passages extraordinaires de la Bible, c'est Romains chapitre 8. Où Paul explique que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera, ni la mort, ni les anges, ni les choses de la terre. Donc, lui, il savait qu'il aimait Dieu. Maintenant, c'était un homme. Il pouvait tomber dans un péché. Mais il sait que lui, il aime Dieu. Tout ce qu'il va faire, c'est travailler à ce que son comportement soit agréable à son amour, qui est Dieu. J'aime Cantique 2.16 qui dit mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Donc Dieu est à moi, je suis à lui. Ce n'est pas une alliance de parfaits, c'est une relation d'amour. Acceptons cette relation-là. Bien-aimé, Satan n'aura plus de prise sur nous. Il aura beau dire, mais ah oui, mais tu t'es énervé hier, tu lui diras, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que moi je veux, je ne veux plus m'énerver. Je veux être comme mon Père. je vais être parfait comme mon père. L'ennemi va te dire, mais oui, mais tu as péché 5 fois. Oui, mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux être comme mon père. Et père, je prie que tu me pardonnes et que tu me soutiennes dans ce combat jusqu'à ma délivrance totale. Mais moi, je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas ça qui me séparera de toi. Ce que je veux, c'est toi. Parce que je t'aime. Et lui, Dieu dit, voilà, moi aussi je t'aime. Je ne laisserai rien me séparer de toi, bien-aimé. Nous n'avons plus la vraie conception de Dieu parce que nous vivons dans un monde où il n'y a que l'intérêt qui compte. Et nous pensons que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Il est bon. Il est amour et il est fidèle. Dans l'amour qu'il a pour ses enfants, pour l'humanité, il est fidèle. Nous devons apprendre l'amour de Dieu. Nous devons changer de vision. Si nous saisissons l'amour de Dieu, toute la peur s'en ira. Il y a d'ailleurs un passage dans 1 Jean 4 qui le dit. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu reçois l'amour parfait de Dieu, tu n'as plus peur. Tu sais qu'il s'occupe de toi. Les événements sont-ils difficiles? Il s'occupe de moi. Je suis tombé, je demande pardon. Il s'occupera de moi. Il me l'a dit. Quand je pêche, 1 Jean 1,9, je confesse. Et c'est ce qu'il m'a donné comme puissance afin de reprendre un nouveau départ. Je saisis cela. Il faut changer de vision. Vous savez pourquoi beaucoup se battent pour des postes dans les églises? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Parce que quand tu as reçu l'amour de Dieu, tu es rassasié. Tu es bien. Vous savez, quand quelqu'un est rassasié, il n'a plus envie de manger. C'est ça la réalité. Mais comment tu peux dire que tu es rassasié alors que tu cherches à manger encore? C'est que tu n'es pas rassasié. Comment tu peux dire que tu es rassasié alors que tu vises encore le gâteau de l'autre? Il y a des moments quand on est rassasié, on peut regarder même la nourriture avec colère. Parce qu'on n'a plus envie. Et quand on voit ça, ça énerve. On se demande, mais est-ce que c'est ça que j'ai derrière, c'est ça le repas derrière lequel j'ai couru? Ben oui, mais maintenant tu as rassasié, tu n'as pas envie. Ça ne te dit rien. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu es rassasié de l'amour de Dieu, tu n'as plus envie d'autre chose que de l'aimer. Maintenant, en l'aimant, Dieu t'inspire des choses à faire pour lui. Comme Jésus, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Car le Père aime le Fils et lui montre tout. Donc, c'est une relation d'amour. Dans cette relation d'amour, le papa de Jésus lui montre ce qu'il a à faire. Et lui, il fait parce que lui aussi, il aime son papa. C'est une relation d'amour. Je l'aime, il m'aime et il me montre ce que j'ai à faire et je le fais. Ma satisfaction vient de cette relation-là et non pas parce que j'ai fait quelque chose. J'ai fait parce que je suis dans cette relation-là. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à se sentir fort. Pour prier, il veut se sentir bien. Non, bien-aimé, tu n'es pas obligé de te sentir bien pour prier. Prie parce que tu aimes ton Père. C'est tout. Tu n'es pas obligé de te sentir fort pour prêcher. Prêche parce que ton Père veut que tu prêches. C'est une relation d'amour. Je vois ce que le Père veut et je le fais. C'est ça, bien-aimé. Prenons tous nos exemples de vie, toutes nos situations de vie. Disons comment le Père voit cela. Et bien-aimé, vous serez surpris comment beaucoup des situations que nous rencontrons vont se transformer en des situations de joie. Je parle bien des malheurs, hein, parce que bon, les bonheurs, on est déjà dans la joie. On sera surpris de réaliser, tiens, mais ce que je croyais être négatif, en réalité, c'est vraiment positif. Parce que tu as vu ça avec les yeux du Seigneur. Il t'a montré que c'est un piège qu'il avait permis pour manifester sa puissance, sa gloire, et tu en ressors joyeux. Même quand il n'y a pas encore la solution, tu sais, Dieu t'a parlé, tu as vu, tu sais ce que veut le Père et toi aussi tu vas faire, tu veux la même chose. C'est cela, bien-aimé. Je vous donne un autre exemple dans Matthieu 15, 21, 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande !» Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous avons un exemple de ce que peut penser l'homme et de ce que peut penser Dieu. Cette femme-là, elle veut la guérison de son enfant. Elle s'approche de Jésus. Viens guérir mon enfant. Et les autres disent à Jésus, mais non, mais c'est une étrangère, il faut la chasser. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Et Jésus semble aller dans le sens des humains. Il dit, d'accord, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Toi, tu n'es pas d'Israël, en quelque sorte. La femme insiste, bien-aimée. Elle insiste. Et Jésus continue en disant, mais on n'a pas donné les choses des enfants aux chiens. Sous-entendu, les enfants, c'est Israël. Vous, vous êtes les chiens. Donc, on n'a pas donné les choses des enfants aux chiens. Bien-aimés, je crois que beaucoup au milieu de nous allaient dire, bon, on me disait que c'est Jésus là était bon, voilà. Un mauvais langage comme ça. Allez, demi-tour. Mais cette femme, elle savait qui était Dieu. Elle savait qui était Jésus. Parce qu'elle avait reçu ça dans son cœur. Elle savait à qui elle avait affaire. Elle savait que tout ce qu'elle vivait là n'était qu'apparence. La réalité, c'est que Jésus était amour. Tout ça n'était qu'apparence. Elle a vu Jésus avec le regard spirituel, le regard de Dieu. Ça a tout changé. Elle dit non, Seigneur, mais ton piège n'est pas un piège, hein, puisque nous connaissons, vous savez, ce n'est pas les chiens de notre époque ou qui vivent dans la maison, ou dont on fait même la pub de certains aliments. Hein, on fait je ne sais pas qui va acheter, mais on fait des pubs d'aliments pour chiens et. Le propriétaire achète, donc ce sont des chiens qui mangent très bien. Aujourd'hui même, il y a des gens qui achètent les viandes qu'on vend pour les chiens parce que c'est de bons morceaux et ils mangent eux-mêmes. C'est ce qui se passe. C'est une réalité, on a vu ça à la télé. Ce n'est pas les chiens de notre époque. C'est les chiens de l'ancienne époque. Moi, j'ai connu cette époque où notre chien, bon, il mangeait nos restes. Voilà, c'est tout. Mais il était gros, fort. Mais il mangeait que les restes. Et nous sommes à cette époque-là. La femme dit, mais Seigneur, moi je connais les chiens. Même s'ils mangent les restes, ils grandissent, ils sont bien. Donc j'accepte que tu me donnes les restes. Tu ne me donnes pas ce que tu donnes aux enfants, mais les restes. Et ces restes-là vont guérir ma fille. Ha. Là, Dieu lui-même est surpris. Mais Dieu ne peut pas être surpris, mais il est surpris. Il dit, comment ça? Quelle foi? Qui peut faire une telle chose? C'est Dieu lui-même dans la femme qui surprend Dieu lui-même. C'est comme ça. Abraham avait surpris Dieu, mais comment? Parce que l'esprit de Dieu surprend Dieu lui-même et vice-versa. Il est écrit, Dieu aime à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu est surpris par lui-même. Il dit, comment? Quelle foi tu as, femme. Ton enfant est guéri. Bien-aimé, c'est un exemple de la vision humaine et de la vision divine. Regardons les choses avec la vision divine. Qu'est-ce que Dieu dit réellement dans ton cœur? Parce que les événements extérieurs sont un message. Mais un message pour qui? Pour notre intelligence. Mais nous, notre message, nous l'obtenons d'où? De Dieu et de la parole. Quand il y a un événement extérieur, ton intelligence capte. Tu as besoin d'un moment pour que tu reçoives l'interprétation spirituelle par Dieu afin d'ajuster ta réaction sur l'interprétation spirituelle et non sur ce que tu as vu. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. » Si nous marchions comme ça, bien-aimés, nous serions vraiment des gens très heureux et nous parlerons du Seigneur librement. Vous savez, beaucoup ne parlent pas du Seigneur parce qu'eux-mêmes, ils sont déçus. Ils sont pleins de petites déceptions dans leur cœur. Pleins de... Aujourd'hui, on dit ça « chippé ». Donc, ils sont pleins de « chip-chip » dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas parler de Dieu. Eux-mêmes, ils sont remplis de freins, de « chip » dans leur cœur. Mais quand nous sommes comme cette femme, nous regardons la vision de Dieu, on est tout le temps heureux. Parce que tout se passe comme on veut. Parce que quand tu fais ce que Dieu veut, tout se passera comme tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a dit. Écoutez la phrase qu'on lui a dite. Alors Jésus lui dit, verset 28, « Ta foi est grande femme, qu'il te soit fait comme tu veux. » Donc, finalement, tout se passe comme tu veux, parce que ce que tu veux, en réalité, c'est ce que Dieu veut. Donc, avant de vouloir toi, regarde ce que Dieu veut. Quand tu vois ce que Dieu veut, tu veux la même chose, ben tu as toujours. Il n'y aura plus de chip. Donc, tout va couler. Parce que tu vis ce que Dieu veut et ça se passe toujours. Avant d'aller faire les courses, tu dis, Seigneur, conduis-moi par ton Esprit Saint. Et le Seigneur sera avec toi, il te guidera. Il y a des prières que les gens ne veulent pas faire parce qu'ils se disent, ah, le Seigneur va me mettre des bâtons dans les roues si je fuis. Il va m'empêcher d'acheter la jupe qui est à la mode. Qui t'a dit que le Seigneur va t'empêcher? Bien-aimé, le Seigneur va te montrer ce qui est bien et tu seras vraiment heureux, bien-aimé. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui disait, quand il était encore célibataire, il avait peur de prier que Dieu lui donne sa femme. Il disait, il risque de me donner quelqu'un, une femme compliquée, ou avec une grosse tête peut-être, tout ça. Et il avait peur de faire cette prière-là. Parce qu'on suppose que Dieu veut nous bloquer, Dieu veut nous... Non, pourquoi? Il est amour, il veut faire ce qui est bien pour nous. Voilà ce que cette femme a cru. Alors que nous, Dieu ne nous a rien dit, mais on suppose déjà. Mais cette femme, on lui a dit des choses difficiles, négatives. Mais elle a dit non, non, non. Dieu est bon. Même les miettes vont guérir ma fille. Alors Dieu dit, mais puisque tu crois autant en moi, prends ce que tu veux, quoi. Tu m'as compris. Tu sais qui je suis. Dieu aime qu'on sache qui il est, qu'il est grand. Et j'en arrive à un autre point. Notre foi, bien-aimée, doit être basée sur ce qu'on va lire là, par exemple, Apocalypse 4. Lisons Apocalypse 4. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Bien-aimés, quand nous pensons en Dieu, nous devons penser aussi à de tels versets. Quand nous pensons en Dieu, nous pensons juste aux difficultés que nous voyons. Nous pensons, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes devenus Dieu. Donc, en fonction de tes incapacités, c'est comme ça que tu penses à Dieu. Non, nous devons voir Dieu comme il est décrit dans Apocalypse 4. Une mer de cristal devant lui. Des éclairs qui sortent du trône. 24 vieillards remplis d'autorité qui se prosternent en jetant leur couronne devant lui. Nous devons réaliser que Dieu est tout-puissant. Bien-aimés, quand nous voyons ce qui arrive à l'Australie, on se rend compte de la puissance de Dieu. Comment imaginer une partie deux fois plus grande que la France, inondée? Est-ce que vous imaginez donc de Marseille à Paris inondée? Ça, c'est la puissance de Dieu. Et nous devons concevoir Dieu dans ce niveau-là. Quand nous pensons à des choses, quand nous faisons des projets avec lui, n'hésitons pas. Nous observons ce qu'il veut et nous avançons en considérant Dieu tel qu'il est, grand comme cela. Et c'est ce que cette femme a fait. Il a dit, Seigneur, même les miettes. C'est ce que David a fait. David a dit, mais Goliath, mais toi tu es trop maître, mais Dieu, c'est, toi tu ne combats pas contre des Juifs, là, contre des Israélites. Tu combats contre l'Éternel. Et l'Éternel va te livrer entre mes mains. Il n'y a pas de problème. Parce que Goliath disait, mais tu viens avec des pierres. Non. Il dit, mais non, ce n'est pas une question de bouclier ni d'épée. C'est une question de victoire. Or, la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous devons vivre dans cette attitude-là. Beaucoup cherchent le feu, la puissance, en faisant des jeûnes de 50 jours. Mais bien-aimés, la puissance vient quand tu conçois Dieu comme cela. Et quand dans tes prières de jeûne, tu conçois Dieu comme ça, là c'est bon. Mais si c'est juste une prière magique, tu te trompes. Quand tu sais que Dieu est ce qu'il est là, tu feras comme les gens de Daniel. Les amis de Daniel, ils viennent. On leur dit, mais vous ne savez pas qu'on peut vous brûler, mais oui, mais Dieu, notre Dieu nous délivrera de ta main. Bien-aimé, c'est costaud, hein? Notre Dieu nous délivrera de ta main. Et de toute façon, même s'il ne nous délivre pas, on n'adore pas ton Dieu. Parce que notre Dieu est supérieur. Voilà. Ça, c'est l'attitude des gens qui ont vu Dieu. Qui ont, quand je dis vu Dieu, pas avec les yeux, hein, qui ont compris qui est Dieu. Ils ont compris. Et tout le reste, ça coule. Même pendant, alors qu'ils sont à 10 minutes de la mort, ils sont bien. Ils disent, on n'adore quand même pas ton Dieu. Parce que notre Dieu est plus fort. Mais oui, mais il est plus fort, je vous tiens. Oui, c'est lui qui le veut. Mais ce qui est sûr, il nous délivrera. Même s'il ne le fait pas, il est plus fort que toi. Voilà, c'est tout. Bien-aimé, c'est comme ça que notre foi doit être. Une foi basée sur la grandeur de Dieu. Et non pas basée sur nos échecs du passé. Même si bien-aimé, on a prié pour beaucoup de choses, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? On a des prières mécaniques. Quelqu'un est malade, il faut qu'on prie pour la guérison. Quelqu'un est mourant, on prie pour la guérison. Quelqu'un manque d'argent, on prie pour qu'il en ait. On a des prières mécaniques parce qu'on a une logique humaine de besoin des humains. Mais ce ne sont pas toujours la volonté de Dieu que quelqu'un qui manque d'argent en ait. Ce n'est pas toujours sa volonté. Il y a des situations que Dieu veut voir être réglées autrement. Il y a des gens, tu lui donnes l'argent, ah, c'est fini, c'est l'alcool, c'est la drogue. Et Dieu va préférer peut-être qu'il mange comme ça, qu'il soit encore pauvre pour le moment. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles nous avons prié sans avoir fait comme Jésus, voir ce que le Père fait. On a prié comme ça. On n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que le Père veut. On n'a pas cherché à voir la situation à la lumière de Dieu, de pensées du Seigneur. On n'a pas regardé. Et c'est pourquoi les vies étant remplies d'échecs, on n'a plus foi en Dieu. Et on marche avec une logique d'un Dieu petit qui bougerait en fonction de la puissance de nos prières. Mais qu'est-ce qu'est la puissance de nos prières? C'est Dieu qui est tout puissant. Et c'est comme ça que nous devons le voir avant de commencer à prier. Nous devons savoir à qui nous avons affaire. Et ça va changer nos vies. La conquête de Canaan, c'est comme ça qu'ils ont loupé. Parce qu'on a envoyé des espions, ils voient que c'est des géants. Ils reviennent dire, mais c'est impossible, c'est des géants. Mais il y avait Josué et Caleb qui disent, non. Ils sont des géants, mais notre Dieu nous donnera la victoire sur eux. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est qui est derrière nous. C'est l'Éternel qui est derrière nous. Celui qui a fait les cieux et la terre, il est derrière nous. Alors nous n'avons à avoir peur de rien du tout. Nous avançons parce que nous, c'est lui qui veut qu'on avance. C'est ça, bien-aimé. Nous devons changer notre perception. Nous devons regarder en fonction de Dieu. Comment Dieu voit la situation. Dieu a dit, je vous donne la terre promise, eux, ils vont compliquer. Les deux là, Josué et Caleb, ont dit, mais non, Dieu nous a dit, il nous donne. Et Dieu nous a déjà délivrés de l'Égypte. Il nous a déjà délivrés de beaucoup de choses dans le désert. Ce n'est pas maintenant qu'on va reculer. Allez, on y va, parce que Dieu est plus fort que cela. C'est l'attitude de foi. Nous nous souvenons de Jésus qui envoie les disciples sans argent. Nous devons entrer dans ça. Nous nous souvenons de la veuve qui donne 2 pites qu'elle avait. L'argent, tout l'argent qu'elle avait. Nous devons entrer dans ça, bien-aimés. Soyons libres. Lorsque Dieu nous montre ce que nous avons à faire, soyons libres. Imitons les exemples qui sont dans la parole de Dieu. On a plein d'exemples. Paul, il était dans le bateau et l'ange de Dieu vient le voir. Il dit, malgré tout ce que vous vivez là, les tempêtes, tout ce que vous vivez là, ben, personne ne va mourir, pas un seul. Personne. Et Paul vient dire au capitaine, il dit au capitaine que personne ne cherche à fuir. L'ange du Dieu que je sers m'a dit que la tempête ne tuera personne. Donc tranquillisez-vous. Effectivement, la tempête a cassé le bateau, mais aucun homme n'est mort. Bien-aimé, c'est parce qu'il était sûr de son Dieu. Il a dit aux prisonniers, il ne faut pas fuir. Celui qui fuira, il mourra. Il faut rester dans le bateau. Parce que l'ange du Dieu que je sers m'a dit que personne ne mourra. C'est important, bien-aimé. Et ils étaient en jeûne. Paul dit, maintenant on va manger. Puisque la solution nous l'a donnée, maintenant on va manger. C'est ça un homme qui voit Dieu, qui sait qu'est-ce que Dieu lui dit, et il obéit, il suit, il imite. Il voit ce que Dieu fait, lui aussi il imite. Entrons, bien-aimés, dans cette vie-là qui est très simple. Tu avances en regardant ce que Dieu fait, en voyant les choses telles que Dieu voit, et tu seras tranquille. Tu verras que tout va couler, même s'il y a des obstacles. Le Seigneur montrera réellement qu'il est avec toi. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où les vrais n'ont marché qu'en fonction de ce que Dieu voyait. Dieu faisait aussi. Et d'ailleurs, il est écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'Éternel est mon berger. Mais s'il est ton berger, donc avant que tu avances, lui il a d'abord fait un pas, toi tu fais le pas à sa suite. C'est ce qui nous manque, avancer sur le pas du Seigneur. Nous voulons demander au Seigneur d'avancer sur nos pas. Non, ça ne marche pas, bien-aimés. Avançons sur les pas du Seigneur. Et avancer sur les pas du Seigneur, ça peut être obéir à des autorités. Ça peut être obéir directement à tout ce qui est écrit dans la Bible. Avançons sur les pas du Seigneur. Et nous aurons une vie, nous sentirons que la vie chrétienne réellement est agréable. Elle est agréable. Parce que quand tu marches sur les pas du Seigneur, les portes s'ouvrent. aucun obstacle ne te résiste. D'ailleurs, il a promis tout ça. Il a dit, rien ne te résistera. Donc, tu marches toujours, tu avances. Les obstacles viendront, mais ils vont sauter. Parce que tu avances sur le pas du Seigneur. Voyons les choses telles que Dieu voit. Et vous savez, ça nous poussera régulièrement à la méditation. Jésus-Christ, dans Jean 4, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je mange. Mais quelle nourriture? Une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Jésus-Christ méditait, réfléchissait aux pensées de son Père. Qu'est-ce que mon Père attend? Qu'est-ce que mon Père voit? Comment il perçoit les choses? Bien-aimé, je peux vous dire que c'est extraordinaire comment, quand Dieu parle à quelqu'un, il voit les choses, et lorsqu'il ne parle pas à quelqu'un d'autre, il ne voit rien, quoi. Bien-aimé, vous vous imaginez avec tous les événements que nous vivons. Nous écoutons nos journalistes français, mais ils osent même pas, ne serait-ce que 10 secondes, parler de la Bible. Ils osent pas, mais bien-aimé, les événements sont tellement clairs. Quand je les observe, je dis, mais c'est tellement clair que même les Australiens eux-mêmes disent que des inondations de proportions bibliques. Tout le monde est en train ailleurs, là où il y a un christianisme militant, tout le monde est en train de parler du fait qu'il y a c'est la fin du monde, il y a un problème. Mais ceux qui ne voient pas, et il y a des chrétiens qui ne voient pas, qui continuent à vivre comme avant. Alors que c'est vraiment clair au Brésil, en 3 ou 4 jours, 500 personnes qui meurent. 3 ou 4 jours. Les choses sont tellement claires. Une inondation qui prend deux pays, donc France-Allemagne réunie, ça prend ça, la partie inondée en Australie, c'est ça, bien-aimé. Réfléchissons. Les choses sont claires, mais les autres ne voient pas. Pourquoi ils ne voient pas? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Nous faisons le choix de nous humilier devant Dieu. Disons, Seigneur, je ne veux rien faire sans te voir faire. Je ne vais rien faire sans savoir ta pensée. Et bien aimé, la pensée de Dieu, comme Paul nous l'a dit, elle est naturelle. Nous n'aurons pas souvent à la chercher. Elle sera là en nous. On n'aura qu'à obéir. Mais cependant, il y a pour certaines choses des temps où nous chercherons la face de Dieu. Et nous devons nous appliquer à chercher sa face, à comprendre ses pensées, à méditer sans pensée. Pas forcément pour nous conduire, mais dans notre intimité avec lui, savoir qu'est-ce qu'il pense et automatiquement après nous serons conduits. Après nous saurons quoi faire. Nous laisser entraîner dans la relation d'amour qu'on a décrite au début. Quand nous nous laissons entraîner dans cette relation d'amour, nous méditons. Mais qu'est-ce que je peux lui acheter qui va lui faire plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? C'est ça la vraie relation d'amour. On médite qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du bien à l'autre. C'est ça la relation d'amour. Et quand on est dans cette relation, on connaît la pensée de Dieu. La pensée de Dieu vient tout simplement. Parce qu'on est là tout le temps à méditer, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux... Comment je peux m'employer pour... À quoi je peux m'employer pour plaire au Seigneur? Et le Seigneur te parlera toujours. Et tu auras des réactions du Seigneur. Comme Paul, arrivé à Athènes, il était en colère de voir les idoles. Ça, c'est des gens qui méditaient avec Dieu. Qui étaient tout le temps en train de penser, mais qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? Mais ce qui peut plaire à Dieu, c'est que l'humanité l'adore. Et donc, ce qui fait que quand il arrive dans un endroit où il y a trop de statues, il n'est plus bien. Il voit en cela une insulte envers son Dieu. Et automatiquement, la puissance vient pour prêcher. Bien-aimé, la vie avec le Seigneur, elle est naturelle, elle est simple. Mais il faut méditer avec lui, marcher avec lui. Il faut voir comme lui, il voit. Penser comme lui, il pense. Et les choses seront simples, bien-aimé. Et nous serons comme Jésus. Je ne fais rien sans voir le Père faire. C'est important. Nous considérerions les critiques des uns comme une bénédiction. Parce que Dieu te montrera que sans ces critiques, tu serais tombé dans l'orgueil et tu deviendrais mauvais. Donc Dieu permet que tu sois critiqué afin que tu réalises toujours que tu es humain et que Dieu seul est grand. Bien-aimé, Dieu est bon. C'est pourquoi Romains 8, 28 dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. ceux qui sont dans cette relation-là vont voir les choses telles que Dieu voit et ils seront heureux. Ils passeront leur temps à méditer la volonté du Père, à vivre dans cette volonté. Gloire à son nom, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à voir comme toi tu vois, Seigneur, à penser comme toi tu penses, afin que l'inspiration coule dans nos vies, la délivrance coule, l'amour coule, et que nous soyons réellement des hommes libres. Car ta pensée se trouve dans ta parole. Aide-nous à accepter cette pensée totalement, au nom puissant de Jésus. Nous nous attendons pleinement à toi. Toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu magnifique. Ô Seigneur, prends notre âme, Seigneur, et que ta flamme brûle dans nos cœurs. Au nom de Jésus.